jamais, on ne conclura jamais sur le mystère de la confession, mais il faut essayer de conclure avec Marie, parce que c'est elle qui est l'alpha de la confession du Christ, elle l'a précédée, elle l'a portée. Jusqu'au jour de Pâques, elle a porté la confession du Christ et elle est l'oméga. C'est elle qui lui donne son accomplissement final et c'est elle qui porte la confession du Christ dans l'Église. Et avant que l'Église ne confesse Jésus ressuscité, Jésus rédempteur, eh bien, elle a elle-même confessé tout ce que l'Église devait confesser. Et la confession actuelle de l'Église, la confession de chacun d'entre nous, il faut savoir qu'elle a été, avant d'être la nôtre, la confession de l'Immaculée Conception. De sorte que notre confession n'est pas la nôtre si elle n'avait pas été si elle n'avait pas été la confession de la Vierge, de l'épouse, de la femme, de la mère et de la messagère, et bien de la reine, et bien il n'y aurait pas possibilité pour nous de vivre du mystère de la confession et donc de vivre du sacrement. D'une certaine manière, elle est, de même que l'Eucharistie est le sacrement du Christ, le corps du Christ, de même, le sacrement de la confession est peut-être, ça c'est pas défini par l'Église, donc je pose la question, le sacrement de la confession est peut-être le sacrement de Marie. Le sacrement de l'Immaculée Conception. Certainement. C'est vrai, quand vous assistez à la messe, c'est Jésus qui est là. Et quand vous assistez à... quand vous rentrez dans le mystère de la confession, c'est l'Immaculée Conception qui est là. C'est ça l'absolution. Au fond, Jésus, c'est le mystère de la confession, c'est la confession substantielle, personnelle, incarnée, eucharistique. Et Marie, bah, c'est l'absolution personnelle, incarnée, présente réellement. Elle est l'absolution. Et Jésus, c'est la confession des péchés. Il s'est fait péché pour nous, il confesse les péchés sur la croix. Et Marie, c'est l'absolution. Elle est l'absolution. Elle est l'Immaculée Conception. Quand on dit l'Immaculée Conception, ça revient à même que de dire qu'elle est l'absolution. L'absolution, c'est gratuit. Elle a été sauvée par Jésus. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ça veut dire quoi qu'elle est l'Immaculée Conception? Ça veut dire que elle a la plénitude de toutes les grâces, la plénitude du pardon des péchés à Adam et à toute l'humanité, dès le premier instant de sa conception, dans son être, dans sa vie. Et donc toute l'absolution et toutes les absolutions, et toutes les sources de toutes les absolutions, constituent, j'allais dire, le mystère de l'Immaculée Conception au départ. Alors, c'est peut-être ça qu'il faudrait... on va lancer quelques pistes parce que pour comprendre ça, et puis je sais pas, il faut quand même remercier la Vierge, reconnaître la présence de Marie, de même qu'il faut reconnaître la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Enfin, je crois qu'il faut reconnaître la présence de Marie dans la confession. Oui, 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 c'est vrai. Il nous donne l'absolution. Le prêtre, le Christ, ego te absolvo, nous donne l'absolution. Voici ta mère. Et l'absolution qu'il donne, c'est l'Immaculée Conception. Qui nous est donnée. Elle est l'Immaculée Conception. Elle est l'absolution substantielle de qui va se partager, se disperser dans le temps, dans toutes les absolutions. Et notamment l'absolution terminale, hein, qui clôt la fin des temps. Et vous voyez, c'est très net. Alors vous voyez, Dans l'Eucharistie, parce qu'il faut toujours voir en fonction de l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, au départ, vous avez le pain, le signe, c'est le pain fabriqué par la petite carmélite, le vin fabriqué par le vigneron. Et puis, d'un autre côté, vous avez la très sainte Trinité, vous avez le Christ ressuscité, la res. Le Christ est ressuscité quelque part, et puis il y a un bout de pain, il y a du vin. Je sais pas, dans un monastère, et puis c'est monsieur et madame Rouvière, il y a du vin. Voilà. Et puis, la messe commence. Ah, il y a des hosties, et du vin, là, quelque part, dans les burettes. Alors, il y a donc le sacrement. Donc, un, res et signum, et puis, deuxièmement, la messe commence. Il y a le sacrement. Le sacrement est là. Ça veut dire que l'hostie, ça y est, elle va être, et le vin sont déjà le signe de ce qui va porter, le sacrement de ce qui va porter la présence réelle de Jésus ressuscité. Et on s'y prépare. Alors, on appelle la présence réelle de Jésus, parole de Dieu. On offre le sacrement qui est seul, c'est-à-dire le pain et le vin, offertoire. On consacre, et du coup, le sacrement et la présence réelle de Jésus sont dans une seule chose, donc res et sacramentum vient en numéro 3. Après la consécration, ce n'est pas le sacrement qui est tout seul, et la res qui se balade quelque part. C'est la res et le sacrement et la res. C'est-à-dire qu'il y a transsubstantiation, les deux sont une seule, substantiellement. Donc ça vient en 3. Et après, on consomme, on communie, et après la dissolution du sacramentum s'en va, il disparaît par la digestion, les accidents du pain et du vin disparaissent, et il ne reste plus que la réalité, le corps mystique tout entier en nous, mystiquement, par la grâce, par la charité, mais il est présent réellement, il ne reste plus que la présence réelle en nous. Ça, c'est la grande structure du sacrement de l'Eucharistie. Ça va ? Est-ce que vous comprenez ? Ou est-ce que vous ne comprenez pas ? Ceci est très important. Oui.
On parlait de sacramentum, c'est au moment donc où le sacrement, les gestes se trouvent sur le thème et qu'ils vont être consacrés.
Voilà. Quand c'est encore chez les Rouvières, ce n'est qu'un signe éventuel. Et dès qu'il est sur l'autel, ça y est. C'est ça qui va être consacré. Donc c'est déjà un sacrement. Intentionnellement. C'est intentionnellement l'Eucharistie. Donc, mais il n'y a pas encore l'Eucharistie. Donc, dès que c'est intentionnellement l'Eucharistie, il y a le sacramentum. Il y a déjà une certaine présence, mais elle est seulement enveloppante. Elle n'est pas dedans. Tandis qu'ici, après la consécration, la présence n'est plus enveloppante. Elle est dedans. Elle est la substance même de ce sacrement. Elle n'est pas enveloppante.
La présence de Jésus et de
Jésus. Oui, tout à fait. La présence eucharistique. La présence divine de Jésus dans l'Eucharistie.
Parce que le fruit de l'Eucharistie, la reine de l'Eucharistie, c'est le corps mystique. Donc c'est plus que Jésus.
Oui, mais c'est la présence quand même réelle de Jésus avec tous ses membres cette fois-ci. D'accord. Bon, pour le procès, on avait vu hier que la démarche de Dieu, du Saint-Esprit et du corps mystique de Jésus, c'est le corps mystique, hein, la reine. Dans le sacrement de la confession, c'est autrement. C'est que, d'abord, comme vous le voyez, c'est inscrit ici sur le tableau, d'abord vous avez effectivement le péché, le type il est pécheur, et de l'autre côté il y a le bon Dieu, ils sont séparés. Vous venez de faire un péché. Il n'y a pas encore vraiment la contrition. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous êtes vraiment séparés. Vous ne pensez pas qu'il faut demander pardon. Vous n'avez pas la contrition. Ça vous fait de la peine, si vous voulez, mais vous n'avez pas le ferme propos. Vous ne voulez pas vous débarrasser. Vous êtes vraiment séparés de Dieu. La réalité, vous êtes séparés de l'Église, vous êtes séparés du Christ, vous êtes séparés du corps mystique, au fond. Donc, le signum qui correspond à la matière, donc votre péché, est très séparé de Dieu. La séparation est totale. C'est le début. comme pour l'Eucharistie. Mais d'un seul coup, vous décidez de vous débarrasser de votre péché. Vous voulez faire pénitence, vous voulez que ce mal sorte de vous, vous voulez demander pardon à Dieu. Vous êtes décidé à dire que vraiment que vous reconnaissez ce péché et que vous voulez prendre la distance par rapport à ce péché. Et donc vous rejoignez ce péché pour que vraiment il s'éloigne. Vous rejoignez ce péché, confession, aveu, pour qu'il s'éloigne. Séparation. Alors à ce moment-là, il y a déjà, dès que vous avez décidé de demander pardon, même si vous ne trouvez pas le confesseur, même si vous le trouverez que dans 10 ans, eh bien, ça y est, il y a présence réelle. C'est ça qui est... Dans l'Eucharistie, j'ai la présence réelle avant, après l'apparition du sacrement. Tandis que dans le sacrement de pénitence, je l'ai tout de suite. J'ai tout de suite l'Immaculé. L'Immaculé précède la présence sacramentelle du Jésus. L'Immaculée Conception est déjà là, présente, dès que je suis rentré dans la contrition. Et il faut que je rencontre le prêtre, le Christ. Quand je rencontre le prêtre, le Christ, alors je rencontre le sacrement tout seul. Le sacrement qui est tout seul, vous comprenez ça? Qui est sans la res, d'une certaine manière. Et du coup, la rencontre du res et sacramentum et du sacrement permet, j'allais dire, à la res d'apparaître. C'est catapulté, si vous voulez. Et il ne reste plus que la res du sacrement. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même processus. Il y a quelque chose qui est aberrant. Il y a quelque chose qui est aberrant. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin, hein. On l'a lu hier, hein, saint Thomas d'Aquin. Hein. Pourquoi il fait ça? Je vous l'ai dit, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est le don par rapport à l'accueil. Donc, res et signium, 1, 2, sacramentum, 3, res et sacramentum, 4, res tantum. Parce que c'est le don par rapport à... C'est l'accueil par rapport au don, le sacrement. C'est l'accueil par rapport au don, le sacrement de pénitence. Je vous l'ai dit. Et donc, l'accueil. Qui accueille le don de Dieu, le don du Fils, le don du Rédempteur, le don de Pâques, le don de la Pentecôte? C'est Marie, non? La seule qui reçoit le Fils. Et donc, c'est l'accueil par rapport au don. Et donc, c'est le mouvement inverse, et par conséquent, il est normal que le res et sacramentum précède le sacramentum tantum. Ce qui montre bien que dans un cas, l'Eucharistie, c'est le sacrement du Christ, et dans l'autre cas, c'est le sacrement de l'Immaculée Conception. Vous avez une autre manière de regarder ça, c'est une démonstration théologique, ça. Mais je ne sais pas si c'est pas dogmatique, hein, je tiens à vous le dire, c'est une... Ne dites pas « le pape a dit que... » Non. C'est. Dites « le Saint-Père », et dites pas lequel. Alors... le Saint-Père a dit que... Ah oui, le coup. Bon, alors... Oui, c'est ça, vous comprenez? Alors, et c'est très curieux ça, oui. Ah oui, le Christ donne dans l'Eucharistie 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la Vierge Marie revient à l'origine de l'Eucharistie. Elle revient. Elle doit revenir. Le Christ, lui, il dit, c'est ce que le Christ, quand le Christ dit à Marie-Madeleine, « Je ne suis pas remonté vers le Père, ne me touche pas. » Lui, il doit remonter vers le Père, il est ressuscité, il peut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une révélation de ce que le Christ, pendant les 40 jours, dit à Marie. Je te donne dans ton cœur ma présence de résurrection, ma joie de ressusciter, ma victoire. Et c'est à toi de faire le retour jusqu'aux origines. Et de ramener
toute la création dans son origine qui est le Père. Et pour ça, il faut que tu ramènes tous les péchés de toute l'histoire. Tu mettes l'absolution dans toute l'histoire. Que tu remontes le temps jusqu'aux origines de la création. Alors à ce moment-là, tu pourras vivre de l'Assomption. Et dans l'Assomption, tu pourras ramener toute l'Église et faire que toute l'Église donne l'absolution à toute l'humanité jusqu'à mon retour glorieux. Et vous avez là les trois grandes étapes de la confession qui m'accueille les conceptions. Première étape, elle porte la confession, elle enfante la confession du Fils comme rédempteur, elle la porte. Deuxième étape, elle ramène l'absolution jusque Dieu, la pente de l'ascension, jusqu'aux origines d'Adam, aux origines de la création. Elle porte l'absolution dans l'Ancien Testament, chez les patriarches. Elle porte l'absolution partout. Jusque, alors ça lui permet de vivre de la dormition. Du coup, le Christ peut la ressusciter, en effet, dans l'Assomption. Et de l'Assomption, mystère de Marie-Reine, elle peut faire que toute l'Église porte l'absolution au monde, de la Pentecôte jusqu'au retour du Christ. Donc c'est les trois grandes manière de la confession, les trois grandes manières, trois grandes pénitences de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'à Lourdes, elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », et bien elle dit « pénitence » trois fois. Parce qu'il y a trois grandes confessions de l'Immaculée Conception. Elle confesse l'Immaculée, elle confesse ce qu'elle est. Elle est l'absolution de tous les péchés. En elle, tous les péchés sont remis à leur source. Bon. Priez, réfléchissez pour découvrir cela. Mais puisque c'est une méditation biblique sur le sacrement de confession, je reviens à l'Écriture pour retrouver justement ces traces-là. Et il est évident, je vous l'ai dit, sacrement, le mystère de la confession, c'est le mystère de Marie, c'est le mystère de la joie, c'est le mystère de l'espérance. C'est le sacrement de la joie, c'est le sacrement de Marie, c'est le sacrement de l'espérance, donc c'est le livre de l'Apocalypse qui nous montre comment elle a vécu cette confession. Et qu'est-ce que c'est que la confession de Marie? Comment elle se confesse? C'est pour ça que c'est Saint Jean qui était son confesseur qui peut écrire l'Apocalypse. Entre nous soit dit. C'est la révélation de la manière surnaturelle, mystique et physique de la Vierge de vivre, de se confesser. De confesser le péché du monde. Alors, je vous signale qu'il y a plusieurs passages dans l'Écriture qui symbolisent, dans l'Apocalypse, le mystère de l'Immaculée Conception dans sa confession. Chapitre 4, verset 6, verset 4, 5, 6. Elle est l'Immaculée Conception au ciel. C'est la vision préparatoire, vision symbolique des luttes de l'Église. Elle confesse la très sainte Trinité. Elle confesse devant Dieu et dans l'Église, en lutte, que Dieu est trois en un et que Dieu est un en trois. C'est la mère de cristal. L'Immaculée Conception, c'est cette mère de cristal qui est devant le trône et qui miroite le trône, l'agneau, les 24 vivants de l'Église. Je vous le dis. Après cela, je vis, et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel. Oui, c'est dommage, j'ai justement effacé ce que j'avais mis hier. Je suis la porte, donc c'est ce qui correspond. C'était ici. Là. Res et signum, donc la première ligne. Je suis la porte. Pour ça, je suis la porte du ciel. Hein? L'icône. Donc Jésus disait, je suis la porte du ciel. Et Marie dit aussi, je suis la porte du ciel. Mais de manière complémentaire. La porte du ciel, c'est ça. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi, un rapt, un ravissement, en esprit. Ça veut dire que le pneuma de Saint Jean, n'est-ce pas, a été emporté, tandis que son corps était resté sur la terre. A été emporté pour voir le mystère de l'Immaculée Conception. Et voici qu'un trône était dressé dans le ciel. Ah, le trône du Bereshit, n'est-ce pas? Trône, c'est quoi le trône? C'est Marie. C'est pas Lucifer. Lucifer, au départ, c'était le trône de la lumière. Il a été déchaussé. Qui prend? Alors, le trône, c'est Marie. C'est l'autel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait un aspect semblable à de la pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, l'alliance. D'une apparence semblable à l'émeraude. Et autour du trône étaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, ça représente le Christ, 24, c'est 8, 8, 8. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. C'est le corps mystique de Jésus, c'est Jésus qui fait l'unité. Et donc c'est le Christ, les 24 vieillards, c'est 8, 8, 8. Vous savez que c'est 8, 8, 8, c'est le Christ. Hein. C'est 2, le Verbe, multiplié par 4, l'incarnation, la création, dans les trois dimensions de l'homme. 888, c'est le Christ. Hein. Tout le monde doit savoir ça. Autour du trône était le Christ. Cette fois-ci, c'est le contraire. Marie a enveloppé la confession de Jésus. Et Saint Jean voit que maintenant, c'est le Christ. C'est Marie qui a enfanté. C'est Marie qui a enveloppé la confession de Jésus. Et maintenant, c'est le Christ qui enveloppe la confession du monde, la confession de la femme dans ses fils. C'est très fort, ça. Revêtus de vêtements blancs, avec des couronnes d'or sur leur tête, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça, c'est évidemment l'Esprit Saint. Les éclairs, les voix et les tonnerres, parce que l'Esprit Saint, les éclairs, ça exprime la présence fulgurante de l'Esprit Saint. Les voix, c'est la présence consolatrice. Il est présent, il console. Et les tonnerres, c'est la puissance d'amour. C'est l'Esprit Saint. Les éclairs, les voix, les tonnerres, la puissance, c'est toujours l'Esprit Saint. Donc vous avez le trône, la paternité, le Christ, les 24, l'Esprit Saint. Sur le trône, quelqu'un était assis, le Père. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, et 7 lampes ardentes brûlent devant le trône. Ah, les 7 dons du Saint-Esprit, ce sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, ça j'avais bien interprété, l'Apocalypse l'interprète. Et en face du trône, ah, en face du trône, ça y est, confession, en face, éternellement du Père, il y a le Verbe. Ce que dit Saint Jean dans le prologue. Le Verbe était prostanteon, face au Père. Et en face du trône, en face donc de ce quelqu'un qui est entouré du Christ dans son plérôme et de l'Esprit Saint répandu dans ses 7 dents, il y a en face qui ? Il y a la mère de cristal, l'Immaculée Conception. Dans la très sainte Trinité, éternellement, le Fils confesse qu'il est venu du Père, qu'il est splendeur du Père. Il confesse ce qu'il est face au Père. Éternellement, c'est sa béatitude. Et l'Immaculée Conception, elle confesse ce qu'elle est. En face de la très sainte Trinité. Et elle reflète, c'est une mère de cristal, elle reflète tout, elle est le miroir. Elle ramène tout. C'est magnifique cette confession. Elle confesse la très sainte Trinité dans le plérôme du Christ ressuscité et dans la victoire de l'Esprit Saint sur toute la création. Elle confesse la Trinité dans l'unité et l'unité dans la Trinité. Mais cette fois-ci, l'unité, c'est l'unité de toute la création dans la Trinité. Ce n'est pas seulement l'unité de la Trinité. C'est l'unité de toute la création. Voilà ce qu'elle confesse. Elle confesse l'absolution totale. Elle confesse que l'absolution est substantielle, qu'elle est éternelle, qu'elle est universelle, qu'elle est catholique, qu'elle est trinitaire. C'est la confession. Ça, c'est ça ce que saint Jean voit. C'est beau, ça. C'est la mère de cristal. Face au trône. La deuxième symbole que nous voyons dans l'Apocalypse, à propos de la Vierge, vous le savez bien, c'est les coupes. Pardon, c'est d'abord le fameux signe de la femme. La femme est proston dragon, n'est-ce pas ? Elle est, c'est le dragon aussi qui est face à la femme. Le dragon, vous le savez bien, le dragon a sept têtes, la femme sur le point d'enfanter. Sur le point d'enfanter, précisément cette confession éternelle. Et le dragon est face à la femme, et la femme face au dragon. Qu'est-ce que l'Immaculée Conception confesse face au dragon ? Elle t'écrasera la tête. Vous voyez ? Quand on est face, on confesse. Et quand on est face à quelqu'un, on se montre tel qu'on est. Elle confesse qu'elle va enfanter. Et qu'elle enfantera en partant au désert. Les deux ailes de l'ange lui fussent données pour partir au désert. Donc par l'adoration, par la contemplation, les deux ailes de la femme. Les deux ailes de l'aigle. C'est magnifique, ça. Donc si, effectivement, elle montre comment on confesse à Satan qu'il est vaincu. On confesse à Satan qu'il est vaincu, et elle lui confesse. Elle confesse qu'il est jugé. Elle confesse que le jugement, c'est pour lui. Elle confesse que c'est fini pour lui. Et Satan est en rage. Il ne peut pas l'atteindre, parce qu'elle lui échappe. Totalement. Mais tout ce qu'elle porte en elle, elle porte le Fils. C'est-à-dire précisément ce que nous venons de voir, toute la création, dans la très sainte Trinité, entièrement dans l'unité. Et il enrage parce que une créature des fils des hommes a été donnée, a été enveloppée, a été constituée, créée dans l'Immaculée, dans la grâce de l'Immaculée Conception. Une seule a échappé au péché originel et toute la création échappe. C'est la rage de Satan contre l'Immaculée Conception. Il n'y a pas de plus grande rage que Satan, que quand tu parles de Marie. Alors là, elle confesse à Satan qu'il n'a plus aucun droit. Dès le départ, il n'a plus aucun droit. Son Immaculée Conception, dès le départ, il pensait avoir un droit sur tous les fils d'Adam, le péché originel. Éclaboussait substantiellement toutes les hommes dès leur conception. Donc il pensait avoir un droit sur tous. La victoire était assurée pour lui. Mais la victoire de l'agneau sur la croix, parce qu'elle s'est conjointe à l'envoi de l'Esprit Saint dans un amour substantiel, a produit l'Immaculée Conception. Dans un immense miséricorde prévenante, un retour vers les origines. Parce que Jésus est Dieu. Et donc, c'est normal que sur la croix, quand il est mort, c'est son éternité glorieuse qui apparaît de rédempteur cette fois-ci. Et l'Esprit Saint se joint à son cœur blessé et il peut sauver tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Mais il peut aussi envoyer cette rédemption jusque dans les origines. Et c'est pour ça que la première manifestation, en remontant vers les origines, c'est l'Immaculée Conception. 30 ans avant, 36 ans, enfin, plus 36, plus 14, 50 ans avant. Je sais pas exactement. Mais c'est égal. Et c'est Marie qui doit achever cette course de l'absolution jusque dans les origines, jusqu'au moment où Satan a atteint la femme au pied de l'arbre. C'est à elle de le faire. Et c'est ça cette confession face au dragon, face à Satan. Chapitre 12. Parut dans le ciel un grand signe, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait « J'ai soif !» Cette fois-ci, le « J'ai soif » du Christ, c'est la confession, ça devient le « J'ai soif » de l'Immaculée Conception. Elle a soif que l'absolution du Christ s'empare de tout, et c'est elle qui en est chargée. C'est pour ça qu'elle doit rester sur la terre. Le « J'ai soif » du Christ, hein, c'est la confession de tous les péchés du monde, qui soient tous confessés par la créature. Elle est la créature. Et nous, nos confessions, on sent bien que toutes nos confessions ne sont pas suffisantes. Mais comme elle a confessé tous nos péchés en tant que créature parfaitement, on peut se confesser dans le sacrement. Sinon, on ne pourrait pas. Elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Je vous disais, la confession, c'est plutôt la maternité. C'est l'enfantement. On l'a vu hein, dans tout le parcours biblique qu'on a fait. À chaque fois que c'est le pardon, c'est la fécondité, paternelle ou maternelle. À chaque fois. Tandis que l'Eucharistie, à chaque fois qu'on avait l'Eucharistie, au contraire, dans la grande montée de l'Écriture, l'année dernière, c'était sponsal. C'était l'époux et l'épouse. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Un autre signe parut encore dans le ciel, et tout à coup on vit un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. De sa queue, il entraînait le tiers des étoiles du ciel, il les jetait sur la terre. Et le dragon se dresse devant la femme, sur le point d'enfanter, afin de dévorer son enfant. Le monde est sauvé, la victoire est totale. Elle est enveloppée par Marie, qui l'amènera jusqu'à son achèvement, et Satan croit qu'il va encore être vainqueur. Quel idiot! Quel crétin! Qu'est-ce qu'il est bête! Lui qui était la créature la plus intelligente de toute la création. Il était plus intelligent même que l'humanité du Messie, du Christ. Il faut le faire. Son intelligence naturelle, pas infiniment, mais naturelle, hein, que celle de l'intelligence humaine du Jésus. Ça, c'est balèze, hein, que Jésus ait fait ça. Lui qui mettait l'intelligence au-dessus de tout, Satan, Lucifer. Le Verbe, lui, a épousé sur la terre une intelligence spirituelle, naturelle, la plus petite de toutes. Il faut voir la grâce chez les Mongoliens, la connaissance de Dieu chez les Mongoliens, ça dépasse la nôtre, hein. Parce qu'on réfléchit trop, on critique, crible. Ne crible rien, laisse tomber tout ça. Deviens mongolien, mon bébé. Tu dis, Seigneur, pardon, j'aurais tellement aimé être mongolien. Enfin, redeviens mongolien. Or, elle donna le jour à un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé d'auprès de Dieu et auprès du trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé une retraite afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert. Dans sa retraite, dans sa retraite, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps hors de la présence du serpent. C'est formidable ça. Les trois confessions de la Vierge qui sont là. Après que Jésus soit parti au ciel, le dragon va s'attaquer à ça. Un temps et un demi-temps. Elle arrache le monde à son péché, elle l'emporte dans la gloire éternelle de Dieu, jusque dans le point de vue de la résurrection finale, par les deux ailes, donc par l'adoration, par la contemplation. C'est pas en regardant, oh le péché, oh mon Dieu, mais c'est terrible, là, 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 en essayant de regarder, oh, comment ils font, ils disent, moi j'ai jamais fait ça. Oh, elle regarde la télévision tout le temps, tout le temps, tout le temps, oh là là. Elle n'a pas cette connaissance du péché. Elle a la connaissance du péché par son poids. Elle l'emporte. Par son adoration, sa contemplation. C'est comme ça qu'on sauve le monde. Quand on reste au milieu du monde et qu'on est tout à Dieu, on l'adore, on le contemple. On est une carmélite au milieu du monde, personne ne le voit, c'est tout intérieur. C'est le seul moyen de sauver le monde. C'est qu'au milieu du monde, on devient des saints. On est un saint, on se consacre totalement à Dieu, totalement ! On se consacre totalement à Marie, et totalement au Saint-Esprit. Voilà. Voyez, la confession de la femme ici, c'est très bien. Le troisième symbolisme de la femme, c'est l'ange, c'est la messagère, l'air du Verseau. Quand on dit qu'on passe de l'air du poisson à l'air du Verseau, c'est parfaitement exact. Dans l'astrologie, vous savez, on dit toujours, on passe de l'air du... Mais oui, absolument. Le Verseau, c'est le messager. C'est le messager, celui qui donne l'eau. La grâce. Vous savez le Verseau ? Vous savez comment ça va ? C'est le messager. Et en même temps, c'est celui qui donne la grâce. C'est Marie, enfin, le Verseau. C'est le symbole de Marie. Le messager angelos. Le messager en grec. La grande messagère. L'ange, c'est une créature. L'ange qui vole au zénith. C'est une créature, un ange. C'est une messagère. C'est qui ? L'ange au sommet. L'ange qui vole au zénith. C'est qui ? C'est qui la messagère au sommet ? C'est pas Gabriel ? C'est pas Michael ? C'est pas Pascal ? C'est pas Maurice ? Ah, c'est peut-être Charlotte, parce que l'ange Gabriel a dit que Marie était bénie dans toutes les femmes, donc l'Immaculée Conception est dans, oui. À chaque fois qu'on voit une femme, on salue la grande messagère. Elle est présente. Dans toutes les femmes. C'est révélé ça. Tu es béni dans toutes les femmes. Ça, c'est ce qui fait qu'on est tellement attiré par les femmes. Vous n'êtes pas comme moi. Si on savait que c'était l'Immaculée Conception qui nous attirait tellement. Si les femmes savaient que c'était l'Immaculée Conception qui les rendait si attrayantes. Ça changerait pas mal de choses. C'est ce que Tatiana Goritseva, la fondatrice du mouvement de libération de la femme en Union soviétique, a compris. C'est pour ça qu'elle a mis le mouvement de libération de la femme comme symbole et comme charte et comme critère l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'elle a été expulsée. Mais c'est une philosophe, hein. Elle a compris philosophiquement que c'était ça. C'est beau ça, c'est vrai. L'ange, la messagère, le messager au sommet, la grande messagère, celui qui refuse les apparitions de la Vierge, vous voyez, c'est quelqu'un qui refuse que Marie, ce soit l'ange. L'ange au zénith, l'apôtre parfait, celle qui donne la bonne nouvelle. Elle a le droit, elle peut le faire. Et non seulement elle peut le faire, mais c'est la reine des apôtres, le 13 mai, le 13, machin, le 13 octobre, 1, 3, vous savez. Elle annonce l'amour. Et l'ange, que fait donc l'ange? Au zénith, qu'est-ce qu'il dit cet ange au zénith? Chapitre 15, versets 14 et 15. Verset 15. Ah, ça c'est joli. Chapitre 15, verset 15. Donc c'est l'ange. Hein. Je regardais, voici que parut une nuée blanche. À nouveau l'Immaculée Conception. Et sur la nuée, quelqu'un était assis qui ressemblait à un fils d'homme. Elle porte au fond la confession du fils, mais la confession du fils ressuscité, donc l'absolution, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du sanctuaire, du saint, du propitiatoire, du caporet. Propitiatoire, c'est le corps de Jésus. C'est le cœur de Jésus blessé et ressuscité. Et quelle est la créature qui peut sortir du cœur blessé et ressuscité de Jésus? C'est l'Immaculée Conception, on le sait très bien, c'est défini par le dogme de l'Immaculée Conception par l'Église en 1854. C'est la seule créature qui a été créée à partir de la blessure du cœur et de l'Esprit Saint. Donc c'est Marie. C'est l'Immaculée Conception. On ne peut pas l'interpréter autrement. C'est impossible. Aucun ange n'est sorti de là. Criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Un ange qui commande au Christ et au Père et à Dieu. C'est Marie qui commande et qui détermine l'heure finale de la moisson, du retour du Christ. C'est elle qui le détermine. C'est elle qui dit c'est maintenant. L'impérium, c'est pour la reine. C'est pour ça, la reine. Elle confesse que c'est l'heure. Elle confesse le salut terminal. Elle confesse l'absolution définitive. Le retour du Christ, c'est l'absolution définitive de tout. Car le moment de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Pas mal. Pas mal. Encore l'ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel, portant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne, de la terre, car les raisins en sont mûrs. » Oui, donc l'ange, il y a trois anges. Ça veut dire que l'Immaculée Conception a trois fonctions dans la confession terminale face à l'heure. C'est à nouveau les trois grandes confessions de la Vierge. Dans l'heure finale, qui sont là. Parce que c'est toujours le même ange, évidemment. Puisque, pour savoir que dans l'Apocalypse, hein, dès que vous avez des symbolismes, ça ne désigne pas une personne, puis une autre personne, puis une troisième personne, ça désigne des fonctions différentes. Par exemple, je suis le fils de ma mère, je suis le prêtre de l'Église, et puis je suis, j'ai plusieurs fonctions. Alors l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre. L'ange vendange la vigne de la terre. Ah, vous voyez, vous avez une trace ici cette fonction-là est différente. C'est celle que dont saint Paul parle dans les deuxièmes épîtres aux Thessaloniciens, que avant le retour du Christ, il y a un rapt. L'un pris, l'autre laissé. Il y a un rapt. Il y en a qui sont mis à part avant les grandes heures du feu purificateur et des châtiments. Il y a un rapt. Et il y en a qui ne connaîtront pas la mort. Ils seront emportés. Vous savez ça. J'espère qu'on en fera partie. On fera tout pour ça. Avant le retour du Christ, il y en a qui disparaissent et qui échappent à la rédemption finale. Enfin, à la modalité particulière de la rédemption finale. À la préparation pour ceux qui ne sont pas entièrement pris par l'Immaculée Conception. Vous l'avez là. Vous avez les trois fonctions de l'heure dernière face à l'heure dernière à l'absolution finale. Il y a trois grandes absolutions. Une pour ceux qui sont totalement dans l'Immaculée Conception, une pour ceux qui sont donc une pour ceux qui sont complètement dans le mystère de l'absolution, une pour ceux qui sont dans la contrition, qui regardent leurs péchés, et une pour ceux qui sont dans le péché. Mais l'absolution est pour tous. Mais la modalité par laquelle la purification sera est différente. C'est pour ça que vous avez trois. Et c'est Marie qui donne l'absolution sous ces trois modalités. Pénitence, pénitence, pénitence. Je suis l'Immaculée Conception. Lourdes. Lourdes, c'est fabuleux. Il y a 153 jours. Entre la première et la dernière apparition. Comme les 153 poissons de la résurrection finale. Pour montrer que c'est tout le corpus de l'humanité, tout le corpus de l'Église qui est pris dans « Je suis l'Immaculée Conception ». Et vous l'avez ici, la quatrième symbolique du mystère de l'Immaculée Conception, les sept coupes, chapitre 16, les six premières coupes, et puis la septième coupe. Alors, les coupes, vous savez, je ne vous en ai pas parlé pendant qu'on a regardé la liturgie du pardon, du Kippour, dans la fête de Sukkot, la fête des tabernacles dans l'Ancien Testament. Mais il faut savoir que la grande liturgie, à cause des quatre décrets du Pharaon, vous vous en rappelez, du coup des quatre miséricordes que Dieu a fait au peuple opprimé, la naissance de Myriam, la naissance d'Aaron, le mariage de leurs parents, le remariage de leurs parents, la naissance de Moïse, et la prophétie de Moïse, et du coup, Moïse qui sauve son peuple, qui sont symbolisés donc par ce que nous avions vu, vous ne voyez plus, dans la fête de Kippour et dans la fête surtout de Sukkot, les trois branches, à la main droite, le saul, la palme et la myrte, et dans la main gauche, ils agitent la sidra, n'est-ce pas ? Et tout ça va être symbolisé dans le grand dans le cérémonial, dans le mémorial qui est fait à l'occasion de la fête de Sukkot, parce que sur l'autel, il va y avoir quatre bénédictions de la coupe. Ces quatre, en effet, demandes du pardon dont je vous ai parlé. Donc le sidra représente le cœur, je vous rappelle. La palme représente l'homme debout. La bouche, c'est le saul qui crie « Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. De grâce, sauve-nous. » Et en même temps, donc il me manque quoi ? La myrte, c'est l'homme qui pleure, c'est les yeux. La contrition. Et donc les saints, les sidras, les saints, ceux qui ont bonne saveur et bonne odeur. Tout ça, c'est symbolisé, tout Israël, vous voyez. Les pécheurs, c'est le saul. Ceux qui sont sans saveur, sans odeur, le saul. La palme, ça a une très bonne saveur, mais ça n'a aucune odeur. Donc c'est les Mongoliens, ils ne connaissent pas du tout la doctrine, la Torah, etc., mais ce sont des, ils font les actes, ils sont remplis d'amour de Dieu. Et puis, vous avez l'autre, c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié ? La myrte. Donc la myrte, ben, c'est ceux qui ont les yeux, ils voient, ils connaissent la Torah, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas les actes. Tout ça, ça fait partie. Voilà, tout le peuple de l'humanité qui fait partie du peuple d'Israël. Ils sont 70 en Égypte. Ils seront 600 000 à la sortie. 70 à l'entrée, comme les 70 nations issues de l'arche de Noé, du pardon. C'est magnifique ça. Eh bien, tout cela, c'est symbolisé par les quatre coupes du repas pascal. Dans le repas pascal que Jésus a fait au chapitre 13, il y a quatre coupes. Il y a quatre coupes sur lesquelles on prononce la bénédiction. Un au début du repas, deux au cours du repas et un à la fin du repas. La coupe, c'est vraiment la coupe du pardon. Il y a le pardon décrété le jour du Kippour, 10 jours après au Hoshana Rabba, le jour solennel de la fête des tabernacles, le pardon demandé de grâce, en pitié, et au repas et au mémorial, il y a les quatre coupes, le pardon donné. Et le pardon donné, l'absolution, est symbolisé ici, donc par les sept coupes. À chaque fois qu'il y a le mal, eh bien la coupe de la colère de Dieu, c'est-à-dire l'Immaculée Conception, verse la grâce du Christ sur le péché, la rédemption est renouvelée par Marie, sous toutes ces sept formes, c'est-à-dire totalement. Alors du coup, il y a des réactions bizarres, ça fait du soufre, ça fait des tremblements de terre, etc. Parce que c'est le démon hein, qui n'est pas content. Des masses de démons. Avant, il était planqué. Il était calme. Et du coup, en se démasquant, il se sépare. Il y en a dit, j'étais possédé. Merde. J'étais possédé. Oui, le prêtre dont je vous ai parlé. Ah, j'étais possédé. Et il ne savait pas. C'est ça, la coupe. Donc face au péché des hommes, il y a cette coupe. Elle parcourt en effet toute l'histoire, jusqu'aux origines, toute l'histoire jusqu'à la fin. Et toute l'histoire à l'intérieur de la confession du Christ sur la croix. C'est pour ça qu'il y a à nouveau trois grandes pénitences de l'Immaculée Conception sur chaque péché. Face à chaque péché, elle confesse qu'ils sont pardonnés. Elle a la confession de leur pardon. Elle confesse qu'ils sont miséricordiés. Le dernier symbole dans l'Apocalypse de la Vierge qui confesse, c'est la Jérusalem céleste, vous le savez bien. Celle est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Eh bien, la Jérusalem céleste, c'est évidemment sur la fin. Chapitre 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la cité. La cité sainte, vous savez que dans les litanies de la Vierge, hein, la cité, hein, la cité sainte. La Jérusalem nouvelle, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. C'est magnifique ça. Elle disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le tabernacle, la tente, la fête des tentes, le pardon. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et lui-même, il sera le Dieu avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la myrte. Et la mort n'existera plus, le saule, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Face au monde, elle confesse que la nouvelle cité n'est pas la cité de la terre, c'est la cité de Dieu. Face au trône, c'est la mère de cristal. Elle confesse que la Trinité est une et que tout est uni dans la Trinité. Face au dragon, elle confesse qu'il est vaincu. Face au dragon, elle confesse le jugement, et que ce jugement s'adresse à Satan. Et c'est le prince de ce monde qui est condamné. Face à l'heure, elle confesse que toute miséricorde implique pénitence, purification. Face au péché, elle confesse que le sang de Jésus brûle tout. Face à chaque péché, les coupes. Face au monde, elle confesse que la cité terrestre est enveloppée et miséricordiée est absoute par la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Et elle devient la Jérusalem céleste. Vous voyez, l'Apocalypse, c'est juste un petit parcours. Vous voyez, vous avez à nouveau les cinq. Les cinq grandes structures qui sont là. Bien montrer que l'Immaculée Conception reprend tout. Par sa confession. Mais sa confession, c'est elle confesse l'absolution. Elle confesse qu'elle, elle confesse ce qu'elle est. Nous, à la confession, nous confessons ce que nous. Voilà, tel qu'on est. Je ne vaux rien. Voilà ce que je vaux. Et elle confesse qu'elle est. Elle confesse qu'elle est le Saint des Saints. Elle confesse qu'elle est le trône. Elle confesse qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle confesse qu'elle est l'onction, la consolation. Elle confesse qu'elle est la Jérusalem céleste. Elle confesse qu'elle est le corps mystique. Elle est le cœur mystique de Jésus. C'est elle. Elle confesse au fond ce qu'on avait dans le Bereshit. Elle confesse les cinq éléments dans le Bereshit. Vous vous rappelez, dans le Bereshit, on avait dit ça. Eh bien, il y a le Messie. Et puis, il y a cinq autres choses. Mais elle confesse ces cinq. Elle est ces cinq qui sont ici. Dans le Bereshit, il y a ces cinq. Dans l'Apocalypse, il y a les cinq. Et le septième, c'est la repentance qui fait l'unité entre les deux, entre le Messie et ces cinq du Bereshit. Alors, maintenant, je reviens quand même à Jésus, à l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, ce que nous lisons en ce moment dans l'Église, entre l'Ascension et la Pentecôte. Chapitre 16. Verset 7. Je vous dis la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille. À qui il dit ça? Hein? Il dit aux apôtres, mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à Marie. Bien sûr, c'est elle qui doit faire tout le reste. Elle faudrait partir tout de suite. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous, Esprit Saint. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché. De la justice et du jugement. Au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Au sujet de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Vous avez remarqué, à chaque fois que vous avez entendu cette parole, vous avez dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et même quand vous l'avez lu dans l'exhortation apostolique sur la miséricorde du Saint-Père et sur l'Esprit-Saint, et son explication, je suis sûr que vous vous avez dit, je ne comprends pas ce que dit le pape. J'en suis sûr. Eh bien, cette parole, je viens de vous l'expliquer à l'instant à partir du mystère de l'Apocalypse, parce que cette parole est incompréhensible si on voit qu'elle ne s'adresse pas à Marie et à ses trois confessions. Elle a la mission de la confession finale, de la confession de la corédentrice. Donc je reprends, je vous l'ai dit, quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde au sujet du péché, la coupe face au péché. La coupe, c'est face au péché. Hein. On vient de le voir. Hein. De la justice. Ça, c'est face à l'heure. L'heure de la justice de Dieu. La Vierge de la Salette, je vais être obligé. La justice de Dieu. L'heure. Au sujet du jugement. Ah, ça, c'est face au dragon. C'est la femme. Face à l'heure, c'est l'ange qui vole, qui vient du sein, qui vole au zénith. Face au péché, c'est la coupe. Au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Elle confesse, c'est pour ça qu'elle verse le sang du Christ dans la coupe, et c'est ça sa mission. Le péché, c'est premièrement de ne pas être entièrement dans le Christ, et que le Christ ne soit pas entièrement en nous. C'est ça le péché. Et elle confesse que le seul péché, c'est ça. À chacun d'entre nous. C'est le seul. Tu ne fais pas oraison. Qu'elle confesse. Le reste, l'oraison a priorité sur tout. Et les sacrements. Voilà ce qu'elle confesse. Péché. Au sujet de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ça, c'est face à l'heure, la confession de l'ange. Tous les péchés contre le Père. Elle donne l'absolution quand même. Ils seront tous sauvés quand même. Le Père veut que tous soient sauvés. Et c'est grâce à l'Immaculée Conception qui a fait pénitence à leur place, qui a souffert à leur place. Infiniment plus qu'il n'était nécessaire, du reste, pour chacun. Et qu'il y a eu la contrition à leur place. Qu'ils sont sauvés, comme à travers le feu, comme dit l'épître de Saint-Pierre. Évidemment, c'est à travers un purgatoire, pas drôle, mais ils sont sauvés quand même. Sauf, chapitre 17, le fils de perdition. Ça, sauf, j'ai gardé en ton nom hein, tous les apôtres que tu m'as confiés, sauf. Sauf Judas, quoi, mais sauf l'Antichrist, sauf tous ceux qui volontairement, librement, s'accrochent à l'Antichrist, librement, lucidement, complètement, totalement. Mais sinon, parce qu'il faut que l'Écriture s'accomplisse, mais sinon tous les autres sont absous. La confession est nécessité de salut, et cette confession, c'est l'Immaculée Conception. Ça, c'est face à l'heure, face au Père, au sujet de la justice, parce que je vais au Père. Et c'est elle qui doit le faire. C'est elle. Ça donne le degré d'intensité, de l'immolation, de la souffrance, de la croix qu'elle a dû subir, porter. Le mystère de compassion. Donc, de la mort jusqu'à la dormition. C'est inimaginable. Elle a porté la pénitence. Au sujet du jugement, parce que le prince de ce monde est condamné. Ça, c'est la femme face au dragon. Et donc, c'est tous les péchés contre l'Esprit Saint. Le seul qui ne soit pas pardonné. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, la miséricorde, c'est deux tiers, un tiers, deux tiers, puis un tiers, non. Toujours deux tiers, un tiers dans l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que les péchés contre l'Esprit Saint ne sont pas pardonnés. Ça veut pas dire, c'est pas deux tiers, un tiers en quantité, hein, d'une des hommes. Hein. Non, non. Non, non, ça veut dire que c'est péché contre le Christ, et péché contre l'adoration, ça, tout ça. Oui. Mais les péchés contre l'Esprit Saint. Mais il n'y a que Satan qui fait le péché contre l'Esprit Saint. Et ceux qui se lient volontairement, lucidement, concrètement, corporellement à Satan. Il faut les quatre conditions. Hein. Volontairement, lucidement, corporellement. Et continuellement, enfin, éternellement, donc à l'instant de leur mort, et continue encore. Il persévère. Il faut les quatre conditions pour pécher du Saint, c'est contre l'Esprit Saint. Il y en a peut-être un petit peu plus qu'on ne croit, hein. Je tiens à vous le dire. Et donc vous avez là, vous voyez, vous avez les trois grandes confessions de la Vierge avec ses trois grandes fécondités. Et donc on rejoint l'Apocalypse par ce moyen-là. Et ceci nous fait rejoindre la confession, et je voudrais terminer par là, la confession du Saint-Esprit. La Vierge vit cela pour nous faire comprendre comment l'Esprit Saint. Alors, j'ai peut-être pas. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. 7 minutes. Donc, 7 minutes pour l'Esprit Saint. Donc, 3, 5, 7, n'est-ce pas ? Alors, l'Esprit Saint, c'est la confession éternelle incréée de l'amour. Avant la création du monde, l'Esprit Saint ne confesse rien du tout. Pour confesser, il en a l'initiative. Dans l'Eucharistie, nous n'avons pas l'initiative. Dans la confession, nous avons l'initiative. C'est nous qui allons nous confesser. Dans l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne entièrement à nous, nous l'accueillons. Dans la confession, c'est le cœur de Jésus ressuscité, brûlé, broyé, mais brûlé d'amour et glorifié dans l'amour qui accueille notre don. Dans la confession, l'initiative est donc du côté de celui qui se confesse. Dans la très sainte Trinité, le Saint-Esprit est une passivité substantielle d'amour. Spiration passive. Et donc, il n'y a pas de confession du Saint-Esprit dans la très sainte Trinité. Pourtant, on vient de voir que l'Esprit Saint confesse ce qu'il est, puisque l'Esprit Consolateur viendra. C'est pour ça que je vous reprends ce passage. Il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde au sujet du péché. C'est à travers le mystère de l'Immaculée Conception qu'on découvre que l'Esprit Saint rentre dans la confession. Il commence à avoir une initiative grâce au mystère de l'Immaculée Conception. Ça, c'est le Père Kolb qui dit ça. Enfin, il ne dit pas ça exactement. Il dit que c'est l'Immaculée Conception qui fait que l'amour de l'Esprit Saint devient actif. Et donc, il y a une confession de l'Esprit Saint dans le monde, à travers le mystère de l'Immaculée Conception, il est envoyé dans les sept dons, il est envoyé dans les charismes, il est envoyé dans la sainteté des élus et de l'Église. C'est les trois confessions de l'Esprit Saint dans le monde. Et il y a l'Esprit Saint qui est du côté, ça c'est du côté du monde, et du côté de Dieu, du côté du Père, du côté de l'origine, du côté de son origine d'amour. Le Père et le Fils, il est confession aussi. Il confesse quoi ? Il confesse dans la blessure du cœur de Jésus, ressuscité, uni à l'Immaculée Conception de l'Assomption, il confesse devant le Père qu'il est l'amour. Et c'est notre vocation. que cette confession de l'Esprit Saint éternellement, c'est ça la vision béatifique. Nous confesserons que nous sommes l'amour substantiellement dans l'incarnation, creusé dans le vide laissé dans la chair incarnée et ressuscitée du Christ par les péchés. Il ne reste plus que la gloire et l'amour substantiel. Voilà ce que nous serons. Nous sommes transformés dans la confession éternelle que l'Esprit Saint proclame qu'il est l'amour dans le cœur blessé de l'agneau éternellement face au Père. Et ce sera ça la vision béatifique. Peut-être vous avez trouvé autre chose puisque nous avons cherché ensemble et en tout cas, on va demander à l'Esprit Saint de faire qu'on vive ça. Et qu'on en vive de plus en plus. Et puis en tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous allez faire à partir de maintenant. Non, non, mais ouais, je vous aime, vous savez, c'est pour ça. Je trouve que c'est très agréable de vivre comme ça une petite retraite. C'est très, très agréable. C'est très réconfortant. C'est vrai, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être dans la Jérusalem céleste, d'être dans l'Église de Jésus. C'est fantastique, c'est extraordinaire d'être dans l'Esprit Saint. Et Dieu nous a choisis pour ça. Pourquoi nous? On ne sait pas. Il nous a choisis pour l'amour. Pourquoi nous? Pourquoi pour tous, mais nous dès maintenant. Pourquoi nous? Je ne sais pas. Joie, pleure de joie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous lis quand même, parce que je vous avais promis la grande parole de la Vierge pour nous inviter à la salette. Nous sommes prêtres, hein, donc nous devons confesser le péché du monde et donc prêtres et victimes. Les prêtres donc les ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, leurs irrévérences, leur impiété à vivre, à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu. Ça, c'est une formule très... Les prêtres, c'est-à-dire les personnes consacrées à Dieu. Les baptisés sont donc des prêtres. Lesquels, par leurs infidélités, leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance, et voilà que la vengeance est à leur porte, parce qu'il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Voilà le grand appel de la Vierge. C'est le grand appel, ça. J'adresse donc un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte, pour ainsi dire, dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union avec Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et qu'ils viennent éclairer la terre. Allez, montrez-vous comme des enfants chéris. Je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui voyez, voici le temps des temps, la fin des fins. Et c'est pour ça que Jésus vous a, et Marie vous ont demandé de venir à cette retraite, pour entendre ça. Et puis pour comprendre que maintenant il faut confesser le péché du monde entier, pas seulement les vôtres. Il faut sauver le monde. Et il faut se demander pitié pour le peuple, pitié pour les péchés de tous, ce sont les nôtres. Il faut le demander avec la Vierge, il faut le demander avec elle, comme elle, en elle, par elle. C'est elle qui le demande à travers nous, jusqu'à la mort. Allez, amen.